le client, il devient tyrannique. C'est les sodas qui les rendent furieux. Ils sont ballonnés, ils ont des brûlures.
Je parie que c'est encore mon métabolisme qui défile.
Tout ça, c'est des belles promesses. Et nous, ce qu'on veut, c'est des garanties.
Te presse pas surtout, hein, tu pourrais attraper une hernie.
Holy Jesus. What is that?
Pensez en dehors de la box.
What the fuck is that?
Direct from the Dave, avec Dave Lagrolle.
Salut à toutes et à tous et bienvenue chez moi dans mon antre pour Direct from the Dave, l'émission qui vous fait sortir de la boîte au grand X, mais pas trop. Avec aujourd'hui un épisode spécial, une très grande interview de Loïc Delahaye-Yen. Mais qui c'est Loïc, me demanderez-vous ? Eh bien Loïc, c'est quelqu'un qui aime les triple A, même si son GOTY 2023, c'est Blasphemous 2. Mais c'est surtout quelqu'un qui a eu le cran de tout plaquer, ou presque, pour lier sa passion du JV avec le monde du livre. Et figurez-vous que son premier livre, eh ben, il sort aujourd'hui même, le 14 mars 2024, à 3 jours de la Saint-Patrick. Alors j'avais envie de fêter ça en avance avec lui. Et pourquoi ? Eh bien parce que ça touche une licence Xbox sublimée dès le second opus par un studio bien de chez nous. Et vous l'aurez compris, on va parler d'Arkane et de sa licence phare Dishonored. Ça s'appelle Dans l'abîme de Dishonored, refonder l'immersive sim, et c'est chez Third Edition. Bonjour Loïc.
Bien bonjour David.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Dans l'abîme de Dishonored, hein, refonder l'immersive sim. C'est chez Third Edition, on va en parler dans un instant. Et vous êtes aussi rédacteur à l'association Journal du Japon. Vous êtes salarié de l'association ?
Non, seulement bénévole.
Il y a des salariés dans l'association ou pas ?
Je crois que à part le rédacteur en chef, tout le monde est au bénévolat. Et ouais, j'ai connu l'association Journal du Japon parce que justement un autre auteur de sœur d'édition, Alexis Molina, qui a fait le bouquin sur Makoto Shinkai, en avait parlé sur son profil. Et comme je suivais son travail, j'ai vu justement que le site recrutait des nouveaux rédacteurs. Je me suis dit que justement, ce serait une expérience intéressante pour écrire des petites choses sur le jeu vidéo en dehors des livres sur lesquels je travaille.
D'accord. Qu'est-ce que vous faites comme boulot sans indiscrétion ?
Ben, jusqu'à l'année dernière, j'étais enseignant dans le primaire. J'ai démissionné cette année parce que je voulais explorer d'autres horizons. Et là, du coup, pendant ce temps, je me consacre à mes livres et je vais essayer aussi de me rapprocher un peu des métiers du livre, notamment peut-être dans l'édition.
D'accord. Alors, vous avez écrit un superbe article sur le stéréotype du ninja à travers le jeu vidéo. J'invite tout le monde à le lire sur le site du Journal du Japon. Alors, vous avez commencé d'ailleurs cet article en mentionnant Dishonored. Alors, c'est par amour des ninjas qui vous a conduit, alors d'une certaine manière, à Dishonored, ou c'est plutôt une rencontre un petit peu hasardeuse avec le jeu ?
Bah, en fait, pour cet article même, c'est simplement en discutant un peu de mon travail avec le rédacteur en chef, Paul, donc, de Journal du Japon, qui s'est dit, oh, tiens, Dishonored, c'est vrai qu'il y a des petits côtés ninja, ce serait sympa, du coup, que dans un article, tu te mettes à explorer un peu cet archétype-là. Donc bon, je me suis exécuté, et c'est vrai que, de base, Dishonored devait être un jeu de ninja, c'était commandé comme tel, avant qu'Arkane ne se ravise en se disant, bon, bah, on ne connaît pas forcément assez bien la culture japonaise pour se risquer là-dedans. Pour ce qui est de la rencontre avec Dishonored, bon, c'était un peu plus hasardeux. J'avais commencé un peu au hasard le premier épisode et vraiment, je suis tout de suite accroché à l'univers et c'est ce qui m'a fait continuer la série.
Et vous mentionnez énormément de jeux dans cet article. Vous jouez beaucoup ?
C'est mon principal loisir, oui.
D'accord. Et quel genre de joueur vous êtes ?
Comme quel genre de joueur je suis ? C'est un peu large comme question.
Ouais.
Beaucoup de jeux de rôle, notamment japonais. Licence Final Fantasy, c'est une licence de cœur. Donc, c'est celle qui m'a amené à écrire sur le jeu vidéo, puisque à l'époque où je faisais mes études, j'avais voulu justement... j'avais vu dans une librairie lilloise qu'il y avait des bouquins d'analyse de Final Fantasy qui était proposé par des auteurs de sœurs d'édition, mais c'était un an ou deux avant que la maison n'avait été lancée. Et c'était vraiment des analyses de FF7, de FF8, FF9. C'était le vrai déclic pour moi. Je me suis dit, j'ai vraiment envie, moi aussi, d'écrire sur le jeu vidéo. C'est pour ça que, du coup, à l'époque, j'avais écrit un mémoire de master sur les antagonistes dans Final Fantasy. Donc, c'est une licence de cœur depuis un certain temps et qui continue de m'accompagner au quotidien, notamment avec le 14e épisode. Sinon, il y a pas mal de From Software aussi en ce moment, surtout l'attente d'une éventuelle annonce oui. dans quelques jours.
D'un DLC et d'un jeu pas connu. C'est ça.
Mais ouais, de manière générale, je suis surtout un gros consoleux. Je joue très peu sur PC, à part à des jeux de gestion de 4X. C'est surtout de la console.
D'accord. Alors, quelle est votre approche du jeu vidéo ? Surtout quand on est enseignant, on a une approche peut-être un peu différente, non ?
C'est surtout une approche artistique, en fait. C'est vrai que, par exemple, notamment avant de travailler sur le livre dans l'abîme de Dishonored, j'avais surtout cette approche de me dire, tiens, ce jeu m'intéresse parce qu'il a un monde vraiment qui m'intéresse. J'avais envie vraiment de découvrir d'autres mondes, des mondes virtuels, de voir justement ce qu'ils pouvaient me proposer comme histoire, comme secret, comme direction artistique. Et le volet conception, game design, c'était pas forcément quelque chose qui me parlait au départ. Vraiment apprendre à décrypter le level design, le game design, c'est des choses qui sont venues dans l'écriture de Dishonored. Donc je sais que, alors je sais plus si c'était Nostalgique ou quelqu'un d'autre qui faisait cette distinction entre les ludologues qui s'intéressent au jeu d'abord par ses mécaniques et les narratologues qui sont plutôt sur le contenu artistique, sur l'histoire. Mais c'est vrai que de base, je penche plus du côté narratologie.
D'accord. Et qu'est-ce que représente alors du coup Dishonored pour vous?
Ce qui m'a vraiment marqué dans Dishonored, c'est le monde. Plus que la mécanique, en fait, d'autant que je ne me considère pas forcément comme un grand joueur de Dishonored. C'est vrai que moi, personnellement, je joue toujours un peu de la même manière, un peu discrètement, jusqu'à ce que forcément, il faille foncer dans le tas parce qu'on n'a pas été assez furtif. C'est moins pour le gameplay en lui-même, même si le gameplay est très agréable, mais je joue toujours de la même manière. Que pour avoir le plaisir de retourner à Dunwall, de retourner à Karnaca, de voir vraiment ces paysages méditerranéens, ces grands bâtiments victoriens, ces manoirs mécaniques, tous ces paysages qui sont à la fois des ailleurs un peu réalistes et quand on explore un peu, des ailleurs également un peu surréalistes et tout. C'est vraiment ce côté évasion qui m'a beaucoup plu dans Dishonored.
Combien de fois vous les avez fait, les Dishonored ?
Ça fait partie de ces licences que je relance un peu une fois tous les ans, en fait. C'est mes marronniers, j'ai ça.
Ah oui.
Ouais.
Un petit peu comme les Pirates des Caraïbes à Noël, quoi. C'est un peu ça.
Eh ben, pendant un moment, justement, Pirates des Caraïbes, c'était un peu mon marronnier aussi, les trois premiers films.
On va parler un petit peu de votre livre maintenant. C'est votre premier ouvrage ou pas ?
C'est mon premier ouvrage, oui.
Pourquoi avoir choisi Third Edition comme éditeur ?
Third Edition, déjà, je les suis vraiment depuis le début. Je trouve que leur approche du jeu vidéo, vraiment de proposer des essais consacrés vraiment, pas forcément à une console, à un genre, mais vraiment de décrypter le plus possible un titre ou une saga précise, c'est vraiment quelque chose qui me parle. J'ai fait mes études justement en parallèle du lancement de Third Edition, donc vraiment je m'identifiais beaucoup à eux. Ça m'a fait découvrir des licences que je ne connaissais pas ou peu, comme là dernièrement j'ai lu le bouquin sur Xenosaga, et ça m'a fait redécouvrir aussi sous des angles différents des titres comme les Final Fantasy ou comme Metal Gear Solid. Et c'est en suivant leur travail, notamment leur live anniversaire de 2022, je crois, que j'ai vu justement l'annonce du troisième tremplin, troisième sort de tremplin, donc un appel à texte pour de nouveaux auteurs. Et je me suis dit, j'ai envie d'écrire, moi, un livre depuis un petit moment. Et vraiment, le thème des grandes sagas de jeux vidéo, j'ai entendu ce thème, j'ai tout de suite pensé, je veux faire je veux faire un livre sur Dishonored. C'est la première saga qui m'est venue à l'esprit. Et vraiment, je me suis dit, il y a tellement de choses à dire. Alors, j'étais un peu triste sur le coup parce que un peu après, dans ce même live anniversaire, ils exposaient notamment le fait qu'il y avait des licences qui étaient peut-être un peu plus compliquées, que ce soit en termes de succès commercial ou d'ayant droit, en citant précisément Dishonored. Donc, je me suis dit, ah non, il va falloir que je pense à une autre licence et tout. Donc, je me suis posé quelques jours après ce live anniversaire en me disant, est-ce que je vais faire un... Quelles sont les sagas qui me plaisent, sur lesquelles je voudrais faire un livre? Peut-être Professeur Layton, peut-être Fire Emblem. Mais je n'avais pas de licence qui me tenait autant à cœur que Dishonored, et c'est pour ça que je me suis dit, bon, en attendant l'annonce officielle, parce que là, c'était un peu en avance du Sœur Tremplin, je vais travailler sur Dishonored, je vais voir ce que je pourrais proposer. Et c'est comme ça que j'ai commencé justement à écrire un portrait de l'outsider, enfin un portrait, une analyse justement du personnage de l'outsider qui est vraiment le personnage qui m'attire le plus dans Dishonored, que je trouve le plus intéressant, sur lequel il y a le plus de choses à dire. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus, et quand il y a eu l'annonce officielle du Sœur Tremplin, ben vraiment, je me suis dit, je ne me vois pas proposer quelque chose d'autre que Dishonored, donc même si j'ai pas forcément mes chances là-dessus, surtout que bon, je ne viens pas du milieu du jeu vidéo, je n'ai pas été développeur, journaliste ou quoi que ce soit dans le milieu du jeu vidéo, donc c'est tout ou rien. Je vais proposer mon analyse de l'outsider et on verra bien ce qu'il en est.
Alors, c'est complètement subjectif alors, comme livre.
Subjectif, oui et non. Disons que la partie création, c'est beaucoup de documentation, beaucoup de recherche, il n'y a pas d'avis personnel, il n'y a pas d'angle choisi là-dessus. C'est pareil dans le résumé, justement, là je suis le triptyque un peu classique des ouvrages de Sœur d'édition, création, univers, décryptage, donc on a tout le volet création. L'univers, c'est beaucoup de résumés des jeux pour mieux comprendre après les analyses, mais aussi des romans et livres, comics qui sont sortis sur Dishonored et qui complètent l'histoire. Mm-hmm. C'est à partir justement des portraits et des analyses de décryptage que là, par contre, il y a un angle qui est choisi, où là, je vais décrypter un personnage, une thématique, en fonction d'un angle que j'ai choisi. Par exemple, le personnage de... Je vais prendre un exemple, le personnage de Delilah, par exemple, de Delilah Caldwin, qui est un personnage qui n'est pas le plus apprécié dans la licence, mais qui, moi, me parle beaucoup. Je me suis dit... Tiens, elle a quand même beaucoup de choses à dire sur la condition des femmes dans le monde de Dishonored et même dans son inspiration dans le monde de l'Angleterre victorienne. Et également aussi, c'est un personnage qui est né, qui est la fille bâtarde d'un empereur qui s'appelait Earl Caldwin, mais qui a été déchu et qui a donc beau vécu dans la grande pauvreté. Elle a des choses à dire aussi en termes de lutte des classes et tout. Donc, c'est un personnage que j'ai vraiment voulu analyser, donc son comportement, ce qu'on en dit dans le jeu, et mettre ça en parallèle de différents textes, de différentes documentations sur ces thèmes-là.
Et vous avez traité tous les personnages de Dishonored ?
Non, seulement les protagonistes et les antagonistes de chaque jeu.
De chaque jeu, d'accord, donc des trois.
C'est ça.
D'accord, ok. Est-ce que Arcane Lyon vous a aidé pour concevoir ce livre ?
Non, j'en avais discuté un peu avec mon éditeur de la possibilité ou non de rencontrer Arcane Lyon, mais forcément Arcane appartenant à Bethesda, Bethesda appartenant à Microsoft, mon éditeur m'a rapidement dit que ce n'était pas forcément possible de faire comme ça. Donc, fort heureusement, il se trouve que les développeurs d'Arcane sont très bavards en interview. C'était presque, quand je faisais de la documentation, c'était presque un travail de veille documentaire parce qu'il arrivait que... Littéralement, la semaine même où je travaillais sur la direction artistique de Dishonored, j'avais une interview justement d'un artiste de Dishonored qui popait sur YouTube ou dans un média de jeux vidéo. Donc ça me faisait d'autant plus de documentation à traiter. Donc là, pour le coup, j'avais de la matière à travailler.
Alors du coup, ça vous a pris combien de temps pour l'écrire ce livre ?
J'ai commencé l'écriture tout de suite après les résultats du Sœur Tremplin, donc c'était en novembre 2022. J'ai rendu les derniers chapitres septembre 2023.
D'accord.
Ça m'a pris un peu moins d'un an.
C'est assez court en fait.
C'était assez court, oui. C'était surtout assez intense, oui, mais surtout c'était très organisé. Je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé. c'est que vraiment avec mon éditeur, donc Ludovic Castro, qui était également l'auteur du livre sur, sur Sekiro et sur Shin Megami Tensei, on a beaucoup retravaillé le plan, on l'a beaucoup retravaillé et détaillé donc le plan que j'avais proposé pour le sort tremplin. Et à partir de ça, vraiment, j'ai subdivisé mon livre en toutes petites parties que je travaillais chaque semaine. Enfin, vraiment, j'avais mon planning semaine par semaine sur ce que je devais faire. Ça m'a aidé vraiment à avancer très vite plutôt que de me dire « il faut écrire un livre ». Il faut écrire un livre avant telle date. Là, j'avais plutôt des toutes petites parties avant telle semaine, puis telle semaine, je fais ça. Ça m'a beaucoup aidé.
Donc on le rappelle, hein, le livre s'appelle « Dans l'abîme de Dishonored, refonder l'immersive sim ». C'est quoi le contenu du livre ? Il y a uniquement du texte, il y a un petit peu d'artwork aussi, ou peut-être même un petit peu les deux ?
Non, ça fait partie de ces livres classiques de sort d'édition où c'est le texte, rien que le texte, et tout le texte en fait. Il n'y a pas d'artwork officiel, tout ça. C'est les seuls arts qui sont présents, c'est la couverture, et les petites icônes qu'il y a là-dedans. C'est uniquement du texte d'analyse, du texte sur la création, des résumés de l'histoire.
On va faire une petite pause, Loïc. Hein. On se retrouve juste après le morceau du groupe XL Order avec le titre Access Point, et ça tombe plutôt bien, puisqu'on va parler d'Immersive Sim. C'était XL Order avec le morceau Access Point.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'immersive sim ?
Alors, l'immersive sim, c'est... Alors, déjà, le terme d'immersive sim regroupe quand même pas mal de choses sur lesquelles peu de monde est d'accord, finalement. C'est, on va dire, un genre de jeu vidéo qui va rechercher l'immersion, donc, notamment en donnant une grande importance à la liberté du joueur et au fait que les systèmes du jeu puissent répondre à ses choix, à ce qu'il va tenter de faire. Ça ne va pas être un jeu linéaire qui va dire bah, « Tiens, il y a une seule solution donnée pour tel problème, tu vas avoir une palette d'outils et débrouille-toi. » En fait, là, techniquement, enfin, dans les Dishonored, par exemple, les niveaux ne sont pas forcément de grands couloirs comme on pourrait trouver dans Final Fantasy XIII, par exemple. C'est vraiment des environnements. On a un point A, un point B, différents obstacles, différents ennemis, et on a différents pouvoirs. C'est à nous de nous débrouiller, de choisir si on doit être furtif, de choisir si on veut se battre, de choisir si on veut être létal ou non. Enfin, c'est le choix qui est le plus mis en avant. Et justement, dans la partie création de Dishonored, je ne commence pas tout de suite par la création du premier Dishonored, mais je commence bien avant donc, la partie, donc en 1993 précisément, où je parle justement du parcours vidéoludique de Raphaël Colantonio et Harvey Smith, qui sont les deux créateurs justement de la licence Dishonored, et qui ont l'un comme l'autre beaucoup travaillé sur des titres comme Deus Ex, sur les premiers titres d'Arcanion, qui ont été beaucoup inspirés par des jeux comme Ultima Underworld, qui sont vraiment des jalons de l'immersive sim, qui ont posé des règles, etc. Et pareil, je parle notamment beaucoup dans la partie création d'un homme qui n'a pas travaillé sur Dishonored, mais qui est quand même très important pour l'influence qu'il a eue sur la série, qui s'appelle Warren Spector, qui est donc le développeur de la série Deus Ex, qui a notamment écrit un article sur lequel je reviens beaucoup dans la partie création, qui s'appelle... je ne sais plus le titre exact, mais c'est le manifeste pour le jeu de rôle du prochain millénaire. Où, alors, il ne parle pas d'immersive sim, c'est vraiment un terme qui est venu quelques années après, mais où il va parler vraiment de jeu de rôle. C'est jouer un rôle, donc là encore l'accent sur le choix du joueur, quel rôle il va jouer, est-ce qu'il va jouer le rôle d'un assassin, d'un justicier qui va être plus attaché à ne pas tuer beaucoup de personnages non-joueurs. Et il va poser justement des principes qui vont plus tard définir dans Dishonored, le fait de mettre l'accent sur le level design, sur les systèmes. Donc voilà, l'immersive sim, ça regroupe ses jeux fondateurs, ses principes. Quant au fait de savoir quel jeu ou non on met dedans, là, pour le coup, ça dépend beaucoup de la communauté. Il y a très peu de jeux qui font consensus là-dessus. Enfin, je sais que notamment, la question est beaucoup revenue, j'en parle dans mes analyses, sur le cas de Breath of the Wild, de Tears of the Kingdom. Est-ce que ce sont ou non des immersive sims parce qu'ils proposent, un peu comme Dishonored, des palettes de pouvoirs qui permettent de se débrouiller d'une façon ou d'une autre dans les niveaux. Et Diga Bakaba, qui est donc là actuellement le directeur d'Arcanion, qui a travaillé, qui a dirigé le Dishonored depuis Dishonored 2, pour lui, justement, c'était moins de l'immersive sim que de... Il avait utilisé Action Simulation, il me semble, au lieu d'immersive sim. Enfin bref, c'est vraiment une étiquette qui est très compliquée, mais qui met l'accent surtout sur les systèmes...
La liberté du joueur. Ouais, c'est la philosophie de la conception, de conception d'un jeu immersive sim. Alors c'est ça.
C'est un genre en fait. On a des personnes comme Diga Bakaba ou comme la level designeuse Dana Nightingale qui a travaillé notamment sur le manoir mécanique de Dishonored 2, qui parle moins de l'immersive sim comme d'un genre de jeu vidéo, comme d'une philosophie de game design.
D'accord. Il y a beaucoup de studios qui sont spécialisés dans ce jeu. Alors du coup, on ne peut pas dire dans ce genre, mais plutôt dans cette philosophie de conception de jeu.
Il y a eu des studios. Je pense notamment à Looking Glass Simulator, qui a à Looking Glass Studio, pardon, qui a beaucoup travaillé notamment sur la licence SIF. Il y a eu tous les studios dans lesquels Warren Spector a travaillé. Il y a Arkane Studio, forcément. Mais sinon, il n'y a pas forcément beaucoup de gros studios qui sont spécialisés là-dessus, tout simplement parce que l'immersive sim, c'est un genre de jeu vidéo qui coûte très cher et qui n'est pas forcément le plus populaire et tout. Ça demande d'avoir beaucoup d'outils pour répondre à différentes actions du joueur, ne serait-ce que les dialogues des personnages pour réagir à ce que fait le joueur. Enfin, je parle justement dans mon livre de à quel point cette philosophie de game design elle a un impact même pour les narrative designers, pour la quantité de textes qu'ils doivent écrire, pour les personnages, etc. Ça coûte très cher pour un genre de jeu qui n'est pas forcément le plus populaire. Autant le premier Dishonored a agréablement surpris Arkane et Bethesda par ses résultats, autant la suite n'a pas forcément marché autant qu'ils ne l'espéraient. Pareil pour Prey, pareil pour Deathloop. Donc, c'est un genre de jeu surtout qui est très difficile à vendre, donc qui n'a pas le succès forcément escompté. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être moins de studios qui sont spécialisés, contrairement à des studios de JRPG, des studios de FPS.
Mais pourquoi c'est difficile à vendre un jeu comme ça ? Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué à mettre en place ?
Par exemple, le problème qui revient souvent avec les bandes d'annonces de Dishonored, c'est qu'elles mettent beaucoup l'accent sur le côté spectaculaire des exécutions qu'on peut faire dans le jeu, et pas forcément sur toutes les possibilités qu'on a justement d'avoir un gameplay létal ou un gameplay non létal, d'avoir telle approche ou telle autre. Sur une bande annonce de 1 minute, c'est très compliqué à faire. Et il y a aussi le problème inverse, c'est de ne pas intimider le public aussi. C'est ça l'autre écueil de l'immersive sim, c'est de proposer trop de choix aux joueurs, de dire par exemple, tu aurais pu aller dans tel niveau, utiliser par exemple, je pense par exemple au niveau de Lady Boyle, dans le manoir de Lady Boyle avec la mascarade, où on peut éventuellement s'introduire dans le manoir en se transformant en rat. Le souci, c'est que là, tout de suite, dans l'environnement du manoir, il y a très peu de rats, donc il aurait fallu investir les points de compétence dans un pouvoir qui permet d'invoquer des rats et en même temps avoir des points de compétence investis dans la possession pour combiner les pouvoirs. Donc, c'est un genre de jeu qui repose beaucoup sur la planification aussi. Donc, c'est un genre de jeu exigeant aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'il est très difficile à vendre aussi.
Et est-ce que le développement aussi, c'est quelque chose qui est assez fastidieux ? Est-ce que les studios arrivent à prendre toutes les idées dès le départ, ou alors est-ce qu'il y a un processus de on va aller dans cette direction-là, j'ai une idée, je vais ajouter ça, d'accord, tu vas essayer de le faire, on va voir ce que ça donne, on reteste le jeu. Est-ce que c'est des jeux qui prennent plus de temps que les autres ?
Plus de temps que les autres, alors ça je serais, enfin plus de temps que les autres pas forcément, mais oui, c'est des genres de jeux qui vont beaucoup évoluer justement avec le développement. Rien que le fait que Dishonored se distingue par le fait de ne pouvoir tuer absolument personne, enfin d'avoir la liberté de ne pouvoir tuer personne, c'est pas quelque chose qui était venu tout de suite. C'est vraiment quand Raphaël Colantonio et Harvey Smith se sont rendus compte que on avait la possibilité d'atteindre les cibles en ne tuant aucun garde, ils se sont dit vraiment, est-ce qu'on ne ferait pas des scénarios alternatifs où le joueur aurait plutôt la possibilité de se débarrasser de ses personnages ennemis, mais sans les tuer ? Donc ça, par exemple, c'est une idée qui est venue en cours de développement. Idem, par exemple, pour le manoir mécanique, le design du manoir mécanique, qui est une des grandes forces de Dishonored 2, qui aurait très bien pu ne pas avoir cette forme-là, voire ne pas exister du tout. Enfin, j'ai lu justement beaucoup d'interviews des level designers là-dessus, où vraiment ils ont beaucoup galéré sur la forme exacte à donner à ce niveau. Et ce qui est très étonnant en fait, c'est que la solution, elle n'est pas tant venue des level designers que ça, que en fait du studio d'effets spéciaux, d'effets visuels, qui a été responsable du premier trailer de Dishonored 2, auquel on avait donné des petites consignes, des petits éléments pour justement vendre le jeu, donner une petite identité visuelle. Et c'est justement du premier trailer de Dishonored 2 qu'il y a eu ces images justement de manoir mécanique avec justement les escaliers, les mécanismes qui s'enchevêtrent, etc. C'est un peu ces images-là qui ont sauvé le niveau du manoir mécanique et qui ont aidé justement les level designers à se dire « Ah, on va partir dans ce sens-là, on va faire évoluer le level design dans ce sens-là. » Donc, c'est vraiment des jeux qui ont, surtout le premier, qui ont beaucoup évolué au cours de développement. Après, forcément, pour Dishonored 2 et pour la mort de l'Outsider, il y avait les bases du premier, donc là, ça a été un peu plus tranquille quand même.
Alors, refonder l'immersive sim, ça veut dire qu'il y a eu un avant et un après Dishonored ?
C'est ça. Disons qu'il y a eu l'avant, donc la fondation de l'immersive sim, c'est toute la première partie de création, toute l'introduction de la partie création. Je parle justement de comment des jeux comme Deus Ex, Ultima Underworld ont fondé un genre. Dishonored s'est posé comme un héritier vraiment de cette philosophie de game design. Il n'en a pas forcément révolutionné l'approche, mais il l'a popularisé auprès d'un nouveau public, d'une nouvelle génération. Et il y a eu un après, justement un après Dishonored, où à la fois on se rend compte des difficultés du genre, des difficultés par exemple pour le vendre, des difficultés pour attirer davantage de joueurs à ce genre, à le révolutionner en fait. Et de l'autre côté, on se rend compte aussi qu'il y a des jeux qui s'inspirent non pas de Dishonored en tant que tel ou qui vont chercher à s'inscrire dans l'immersive sim, mais qui ont vu que justement des jeux comme Dishonored marchaient très bien parce qu'il y a cette palette de pouvoirs, il y a ces combinaisons qui marchent très bien, cette liberté donnée aux joueurs qui vont picorer des petits éléments d'immersive sim pour proposer, comme justement Breath of the Wild, des nouvelles approches de game design. Et c'est peut-être dans cette façon que Dishonored refonde l'immersive sim, c'est en inspirant des jeux non pas à devenir des immersive sim à leur tour, mais à proposer justement des éléments de cette philosophie de game design pour justement réinventer le leur.
Pour terminer l'émission, je vais vous proposer une série de questions. Il va falloir me répondre très rapidement par l'un ou l'autre, ok ?
On va essayer.
Nintendo ou PlayStation ?
PlayStation.
Nintendo ou Xbox ?
Nintendo.
Xbox ou PlayStation ?
PlayStation.
Vous êtes viré. Non, je peux.
Je sais que c'est pas forcément les bonnes réponses à dire.
Mais c'est non, si c'est...
je joue à la Xbox quand même.
C'est forcément les bonnes puisque ce sont les vôtres. Alors, pour ou contre les exclusivités sur une seule plateforme ?
Contre.
C'est vrai ? Pourquoi ?
Ça attire forcément à investir dans une nouvelle console, mais je pense que plus le nombre de joueurs peut accéder à une licence, mieux c'est. C'est toujours mieux quand c'est dans le partage, en fait.
Borne d'arcade ou console de jeu ?
J'ai très peu joué aux bornes d'arcade, donc console de jeu.
Alors, du coup, on a eu la réponse tout à l'heure. PC ou console de jeu ?
Console de jeu.
Pour ou contre Bethesda chez Xbox ?
Pour, parce que, rien que pour avoir le soutien financier et avoir justement la possibilité d'avoir des licences comme Dishonored qui n'ont pas forcément le plus grand succès commercial, mais qui ont une vraie proposition à ajouter en termes de catalogue.
Solo ou multijoueur ?
Solo.
Chocolatine ou pain au chocolat ?
Je viens du nord de la France, donc pain au chocolat.
Bien joué. Vous êtes réhabilité. AA ou AAA ?
AAA quand même.
C'est vrai ?
J'ai toujours quand même un petit affect quand je vois des grandes bandes annonces, surtout des licences comme Final Fantasy. Donc même s'il y a des propositions plus modestes qui m'attirent de temps en temps, je reste bon public pour le AAA.
Alors du coup, narratif ou contemplatif ?
C'est compliqué.
Eh oui.
Contemplatif quand même.
Ah, vous aviez dit narratif tout à l'heure.
Un peu des deux quand même. Ah,
c'est le triple A qui a influencé, je suis sûr.
C'est surtout le côté évasion encore plus. C'est pour ça que notamment, je reviens beaucoup à des titres comme Ghost of Tsushima ou même Dishonored, c'est pour les grands paysages.
N'empêche, dans le double A, il y a quand même de sacrées pépites au niveau graphisme. Il y a des trucs de dingue. Je ne sais pas si vous avez joué à Brumble, mais graphiquement, c'est quelque chose de chouette. C'est un très beau jeu. Pour ou contre la critique qui considère également que certaines missions de Dishonored offrent trop de liberté ?
Pas forcément pour. Justement, je trouve que c'est une des grandes forces de Dishonored que de proposer un gameplay et une histoire aussi qui mettent l'emphase sur la liberté. Enfin, j'ai toute une partie d'analyse qui s'appelle « Un essai sur la liberté », donc ce serait difficile d'être contre là-dessus.
Alors, jouer ou pas jouer au jeu de rôle sur table Dishonored ?
Je n'y ai jamais joué. Je l'ai beaucoup lu, mais je joue très peu au jeu de rôle sur papier, tout simplement parce qu'il faut recruter des gens, enfin même... Mais être maître du jeu d'un jeu de rôle sur table, ça ne me dérange pas. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais maintenant, il faut trouver les joueurs. Et tout.
Pour ou contre la critique qui trouve l'IA de Dishonored incohérente ?
Disons que, surtout sur le premier, c'était vraiment un point qui a pêché, l'intelligence artificielle. Ça s'est amélioré avec le deuxième. Je trouve que, comme dans les From Software, c'est une composante du jeu avec laquelle il faut apprendre à jouer. Elle n'est pas forcément parfaite, et si elle était parfaite, est-ce que le jeu ne serait pas bien plus difficile qu'il ne l'est déjà ? Enfin, qu'il ne l'est déjà, il n'est pas forcément difficile, mais une IA réaliste avec vraiment des gardes humains qui réagissent comme le feraient de vrais gardes humains, je pense que ce serait vraiment compliqué.
Pour ou contre une suite à Dishonored ?
Pour.
Évidemment. Pour ou contre écrire un autre livre ?
Et moi, écrire un autre livre ?
Ouais.
Disons que la question ne se pose pas là actuellement, il se pourrait que je sois déjà sur le deuxième, donc forcément pour, et j'espère en écrire encore après ça.
On peut savoir sur quoi ? C'est toujours sur le jeu vidéo ?
C'est un livre avec Surd, je peux pas forcément dire plus.
On va être obligé d'avoir l'exclusivité, on va les tanner, je vais leur envoyer plein de mails. C'était Loïc Delahaye-Yen, vous êtes donc l'auteur de Dans les abîmes de Dishonored, refonder l'immersive sim aux éditions Surd Edition. Merci beaucoup Loïc d'avoir participé à l'émission.
Merci de m'avoir reçu pour ma première interview du coup.
Peut-être à bientôt alors du coup pour le prochain bouquin.
Ça marche.
Merci.